Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
C'était le nom que le père Sestac a donné au domaine qu'il a acheté. Il dit que le domaine Châteauneuf prendra le nom de Notre-Dame du Refuge. La représentation de cette statue rejoint bien la spiritualité du père Sestac parce qu'elle est à la fois mère, elle tient l'enfant, donc elle est mère, mais elle est aussi reine. Et la statue, elle est de l'ancienne chapelle. Le père Sestac a connu la statue. C'est un modèle de Marie qui lui allait bien. Alors même si, dans son expression de sa spiritualité, il n'appelle pas souvent mère et reine. Il appelle mère et maîtresse. C'est la maîtresse, mais la maîtresse de maison.
C'est ici, sur la côte basque, en Anglette, dans la chapelle de Notre-Dame du Refuge, un lieu de silence, d'écoute et de prière, à juste 2-3 km de la plage, qu'en pleine saison estivale, je découvrais cet été les deux communautés des Servantes de Marie et des Bernardines, une seule et même congrégation fondée dans les années 40 du 19e siècle par le père Édouard Sestac. Ami des pauvres et des petits, notamment des jeunes filles errant dans la rue ou dans la prostitution, éducateur avisé, agriculteur d'avant-garde, homme de prière et serviteur de Marie. Partout où est passé le bon père, comme l'appelaient ses contemporains, il a semé la vie. Béatifié en 2015, son œuvre est immense.
Alors, l'ensemble de la chapelle, elle a été faite sur les plans d'un père de Bétharram. Puis, on a essayé, au niveau quand même, tous les peintures, même si elles ont été restaurées, mais elles sont faites par des peintres de l'époque, les Monnejean ou bien les abbés Monteau. Au moins, ce que je peux discerner, c'est au moins le cœur là-bas, c'est l'abbé Monteau. Le couronnement, c'est sûrement de Monnejean. Les deux autres sont assez représentatifs de notre spiritualité. Là, c'était pour honorer Saint Joseph, où on a. Et puis, c'est pas le retour d'Égypte, hein, c'est Nazareth. Et la spiritualité de Nazareth, c'est quand même très fort dans la congrégation. Le père Sestac disait, les sœurs dans les petits villages, c'est comme Marie à Nazareth. Elles doivent vivre comme elles. Et de l'autre côté, ça aussi, c'est assez intéressant pour nous. On a Jésus à Béthanie, mais il y a Jésus où il est avec Marthe et Marie. Alors nous, on dit, c'est peut-être aussi les deux branches à la fois, bien qu'on doit être aussi à la fois Marthe et Marie. Voilà.
Aujourd'hui, les filles du père Sestac, tant les servantes de Marie que les Bernardines, poursuivent son œuvre. Respect de la vie et de tout être humain, respect des droits de l'enfant et de la femme, respect de la nature et de la création. C'est ce que je vous propose de découvrir au cours des semaines qui viennent. Nous serons en compagnie de sœur Jacqueline, ancienne supérieure de la congrégation des servantes de Marie. Avec elle, nous mettrons nos pas dans ceux du père Louis-Édouard Sestac, bienheureux serviteur de Marie. Et, nous dit-elle, tout commence à Bayonne dans les années 1830.
Le père Sestac, il était vicaire à la cathédrale à Bayonne dans les années 1830. Il a été vraiment très ému par la situation des fillettes, des fillettes orphelines ou abandonnées qui vivaient dans la rue. Alors pour ces fillettes, il a d'abord formé comme une sorte de foyer d'accueil pour ces petites orphelines. Mais après, il a vu la misère des aînés, celles qui n'avaient pas eu d'enfance et qui se trouvaient en marge ou déjà engagées dans la prostitution. Et pour elle aussi, pour lui aussi, ça a été un crève-cœur. Et il se dit, je vais devoir... Il faut que je m'occupe.
Voilà, on ne peut pas les laisser de côté.
On ne peut pas les laisser de côté. D'autant plus qu'une fois, il a été appelé en tant que prêtre dans une maison close parce qu'il y avait une fille qui se mourait. Et quand il est arrivé, en montant, dit-il, il a entendu un cri perçant. Et quand il est arrivé, la jeune fille venait de la jeune prostituée venait de mourir, et tout le monde sanglotait et criait, etc. Et alors lui, devant ça, il a vraiment été ému de ce cri. Et il dit non, je peux pas les laisser comme ça. Il faut non, il dit, je me suis dit qu'il faut que je voue tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour les aider. Et à partir de là, alors bon, il n'a pas de suite conçu la chose, hein, ça c'est sûr. D'abord, il a commencé à l'envoyer dans des lieux de vie qui existaient, à Bordeaux, à Toulouse, bon, des refuges ou bien des miséricordes. Bon, puis après, on lui a dit, nous, on n'a plus de place, donc on ne pourra pas prendre vos clientes. Et donc, il s'en est présenté deux. Alors, en leur disant, ouais, monsieur l'abbé, je ne sais pas comment, mais enfin, sauvez-nous. Nous, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, il les a donc, les deux premières, il les a accueillies dans le grenier de la maison où se trouvaient les orphelines. Et puis, alors après, non seulement deux, puis très vite, ça s'est su, et d'autres sont venus. Bon, c'est sûr qu'il. Puis, ça fait quand même un grand tollé à Bayonne, hein. Quand on s'occupait de ces personnes-là, et que cet abbé s'occupe d'elles, alors ça, ça a été le tollé à Bayonne. Alors, de toute façon, il ne pouvait pas les laisser dans un grenier. Il fallait qu'il cherche quelque chose. Mais il n'avait pas d'argent, il voyait bien qu'il ne pouvait pas les laisser là. Mais que faire? Bon. Alors, donc, il était en guerre lasse, et puis un peu poussé par son intérieur, par sa flamme, son inspiration, il est allé faire un pèlerinage à Notre-Dame de Buglose, qui est dans les Landes. Et là, il a entendu ce message de la part de la Vierge, « Ne me demande que mon esprit ». Vous lui avez pourtant demandé 40 000 francs pour acheter une maison. Mais la Vierge lui a répondu, « Non, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. » Demande d'abord l'esprit. Et fort de ça, il s'est dit, je dois, ben voilà, c'est Marie qui sera celle qui me conduira. C'est Marie qui prendra l'initiative. C'est Marie qui me montrera. Il a fait ce pèlerinage en juillet 1838. Et les circonstances l'ont amené, en 4 mois après, en octobre, à repérer ce domaine ici. Il était allé visiter une malade, pas loin d'ici. Et il, voilà. Alors, le monsieur, qui le voit triste, il lui dit « Pourquoi vous êtes triste ?»« Eh bien, je suis triste parce que je songe à mes pauvres filles là-bas, dans le grenier. Alors qu'ici, vous avez un domaine, c'était un peu plus loin là-bas, magnifique. Et je me disais, si quelque chose comme ça vous était donné. » Alors, le monsieur, père de la jeune qu'il avait visitée, jeune fille, il dit « Mais il y a mieux que moi, il y a mieux que ma propriété ici. » À quelques minutes, il y a le domaine de Châteauneuf qui est à vendre. C'est bien mieux que ma propre maison. C'est plus grand, c'est plus rassemblé, rien de mieux. Alors, le père Sestac, quand même, pratique, il dit, et ça vaudra combien? Oh, vous la laissera à 40 000, 50 000. Oh là là, il dit, non, j'ai pas un sou. Non, je vais pas y aller. Non, je vous accompagne pas, parce que qu'est-ce que je vais y faire? Et le monsieur dit, oui, vous allez venir. Et il se fâche presque. Vous allez venir visiter au moins la maison. Alors, ils viennent, je vais vous montrer. Vous voyez les maisons blanches là?
Celles qui sont au fond, là, qu'on
voit. Oui, là, au premier plan, c'est la première maison, et c'était là.
D'accord.
La maison, ce qui s'appelait déjà la Tchang. Alors, par les champs, il est venu ici. Alors, on va y aller.
Alors là, nous pénétrons
dans la communauté. Alors, la maison qu'il va voir en premier, attention, c'est cette partie-là, la partie la plus basse. Sans le clocher, mais il y avait quand même une petite tour, mais pas un clocher comme c'est là. Alors il va et il arrive devant la façade de la maison Châteauneuf. Alors c'était vraiment une jolie maison. Voilà, vous voyez la façade.
Ah oui, effectivement, on voit encore le linteau.
Le linteau, donc il voit ça, on l'a laissé identique. La tour a été élevée. beaucoup plus tard par la communauté pour y mettre des cloches. Et du temps du Père Sessac, il y avait simplement une petite tourelle avec une toiture. Dont le Père Sessac, il est rentré dans ce bâtiment.
Je vous précède.
Alors, ceci est à peu près inchangé. Donc, il voit le même escalier.
Un escalier magnifique, tout en bois.
Voilà, mais ça, il est d'époque.
Mais vous l'avez astiqué depuis.
Hein. Ah, oui.
Vous l'avez ciré.
Il a été astiqué. Et voilà. Et donc, il est surpris par la solidité de la maison et la grandeur. Mais il monte avec le monsieur, il visite sûrement les pièces d'en bas et il monte. Et bon, tant bien que mal, ben c'est bien, mais enfin, bon, il se disait, j'ai pas de sous.
C'est pas pour moi, c'est pas pour nous.
J'ai pas de sous. Et en arrivant dans une des pièces du haut, les pièces étaient vides puisque la maison était inoccupée, mais dans une pièce du haut, il voit un portrait de Marie-Madeleine, une peinture, rien de très esthétique. Mais c'était Marie-Madeleine, un symbole fort. Et il dit, ça c'est pour lui un signe. Et il dit, je compris et j'eus la certitude que cette maison, la maison choisie par Marie, pour être le lieu d'accueil des filles.
Et le Père Sestac se décide. Il achète, à crédit, un domaine qui sera acquis et payé. Grâce au travail.
Mais parce qu'il dit qu'il fallait que la propriété soit payée par le travail. Et parce que le travail devenait pour lui, devenu pour lui une des valeurs de, comment dirais-je, pédagogique.
Et de la dignité aussi.
Et de la dignité pour rétablir, pour régénérer les jeunes qu'il accueillait, qui étaient surtout des jeunes de la campagne, mais qui avaient mal tourné à la ville. Eh bien, c'est ça. Le travail... Le silence, la prière, voilà les trois piliers, et la vie en famille. Parce que les éducatrices, parce qu'il a eu quand même de jeunes personnes de Bayonne et des environs qui ont dit à monsieur l'abbé, on veut vous aider. Alors ces premières collaboratrices, il voulait qu'elles vivent exactement de la même vie que les filles. Alors ça, c'était... assez nouveau. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé au début, parce que les conditions de vie ont été dures.
Et le travail, c'était quoi?
Alors, le travail, ils ont commencé à cultiver les champs.
La terre,
le jardin, la terre. Mais les premiers temps, ça a été très difficile, parce que, comme il disait, personne ne savait travailler la terre, ni lui non plus. Et donc, il fallait payer quand même les dettes, et des fois, il a fait d'autres emprunts pour payer les premiers emprunts.
Bon. Il avait une foi, en fait.
Voilà, une foi, une confiance.
Et une confiance en Marie.
C'était Marie. Alors, il avait compris que cette œuvre-là, ce n'était pas la sienne, c'était l'œuvre de Marie, dont lui, il était...
Un instrument de
la bonté, de la charité de Marie, et donc, à temps voulu, il aurait ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'on voit, et il raconte, des événements qui vraiment prouvent que, juste au moment voulu,
Marie était là.
Il le dit d'ailleurs parce qu'il nous a laissé un petit document où il raconte, et il dit souvent, il l'adresse à Marie, vous étiez là, vous étiez toujours là. Et ben, elle était là et il y avait le geste qu'il fallait, le don ou la rencontre de personnes qui permettaient d'aller plus loin. Donc il achète ça en 38, il aménage un peu le bâtiment. Il fait agrandir la chapelle et 14 jeunes viennent avec quelques collaboratrices, quelques jeunes filles. En 44, elles seront 80.
C'est une nécessité.
Une nécessité. Et alors donc, il fallait répondre à tout ça, il fallait bâtir, il fallait se développer. Bon, il y a eu des moments difficiles, mais en gros, ça a avancé.
Alors, on va passer par là.
Donc ici, nous sommes au cœur de la communauté, des servantes de Marie.
Voilà. Alors, au départ, il y a eu les collaboratrices du Père Sestac, ces collaboratrices qui étaient généralement de Bayonne ou des environs, qui se sont proposées pour aider le père Sestac, eh bien, elles ont vécu quand même, conduites par le père Sestac, des valeurs évangéliques, des valeurs de don de soi, et elles ont pensé aussi à la vie religieuse. Et ça, il a fallu attendre quand même un petit peu de temps. Elles sont arrivées ici en 1939, et le groupe est devenu une communauté religieuse en 1942. C'est-à-dire que le lycée royal de Toulouse avait demandé, je vous passe des circonstances, avait demandé d'avoir des personnes d'ici pour aller travailler au lycée royal de Toulouse, comme lingère, pour s'occuper des internes quand ils étaient malades, un peu d'intendance, voilà. Mais pour que ces personnes d'ici puissent aller à Toulouse, il fallait quand même les rattacher. Alors l'évêque a dit au père Sestac, il faut que vous les constituiez en communauté religieuse. Et donc en 41, il écrit la règle de vie, et le 6 janvier 42, il y a eu la première consécration de ses collaboratrices qu'il a appelées, il l'avait déjà appelé un peu avant, mais comme servante de Marie. Le nom est tout un programme. Alors, lui, le père Sestac, qui s'appelait serviteur de Marie, et les sœurs, elles s'appelaient servantes de Marie. Alors, les sœurs, elles vont là-bas, à Toulouse, pour faire du service. Mais c'est un service qui sera payant. C'est un service qui sera rémunéré. Et dans la tête du père Sestac, ça revient ici, parce qu'on met tout en commun. Donc, ce que les sœurs gagnent à Toulouse viennent aider le groupe des sœurs qui travaillent ici, les jeunes, les orphelines, et les jeunes prostituées accueillies, ou à l'époque, maintenant on ne parle plus comme ça, mais à l'époque ils les appelaient des pénitentes. C'est-à-dire qu'en fait, ils les voulaient volontaires. Les premières, ils ne voulaient aucune fille confiée par les familles,
que ce soit vraiment la démarche.
La démarche. Et il disait, quand les parents disaient « Oui, ma fille, elle va mal, il faudrait que vous la preniez. » Non, non. Quand elle viendra toute seule, je l'accepterai. Mais si on la force, je ne la prendrai
ça
pas.
Ça aussi, c'était très novateur. Et puis, le respect de la personne.
Et on raconte qu'on a des lettres qui disent « Quant à la petite qu'on veut nous confier, vous veillerez à ce qu'on donne l'argent pour le retour, si elle ne voulait pas rester. » Ça en dit long du souci. Et voilà, donc ça c'est tout à fait le début. Et il s'est trouvé que, quelque temps vers 1946, il y a eu l'éclosion du groupe des Bernardines, de la même congrégation. En fait, pour aider, il y avait dans les pins, pas dans les pins, dans le piñada, mais ce n'est pas le piñada comme on a aujourd'hui. C'était un piñada naturel. C'était surtout des dunes. Et il y avait là une personne âgée, un petit vieux, qui vivait tout seul, avec quelques arbres de sable autour de lui. Il est tombé malade. Les sœurs de la communauté sont allées le soigner. Puis après, finalement, il a demandé de venir ici parce que les nuits, c'était trop long. Et il faisait froid dans sa petite cabane. Donc, le père Sestac a dit oui, on va vous aménager quelque chose à Notre-Dame. Donc, dans une étable ou une écurie. Ça, c'était pendant l'hiver 45-46. Mais si bien qu'au printemps 46, le petit vieux, il était tout content, il se sentait entouré, tranquille, il avait tout ce qu'il fallait. Il dit au père Sestac, mais je pense quand même à mon petit jardin là-bas dans les sables, parce que là-bas c'était vraiment les sables. Et avec les vents, et après l'hiver, je vais avoir tout recouvert de sable. Est-ce que des filles ne pourraient pas aller l'entretenir un petit peu pour quand je reviendrai? En fait, il n'est jamais revenu. Bon, le père Sestac a dit oui, on va y envoyer une équipe. Donc une équipe avec la responsable qui s'appelait Mère François de Paul, une sœur, parce que maintenant là c'était des sœurs. Elle est partie avec cette équipe de filles dans les sables. Aujourd'hui, tous les sables à Anglette sont recouverts de pin. Mais à l'époque, tous les sables n'étaient pas recouverts de pin. Il y avait des sables mouvants, des dunes qui bougeaient. Et l'hiver, c'était la terreur des gens du village. Alors, les jeunes, quand elles sont arrivées là-bas, qu'elles ont essayé d'enlever le sable de ce qu'avait le petit vieux, je sais pas, un peu de vigne, un peu de tabac. Et là, elles ont senti un appel très fort à vivre une vie de don de soi à Dieu, dans le silence, dans la prière et dans le travail. Donc, entre elles, elles se sont dit, on va garder le silence, tout le temps. Et si on a besoin de communiquer, on le fera avec des gestes. Mais on ne parlera pas. Et cette manière de vivre a sûrement fait croître en elles une vie intérieure intense et profonde. Bon, alors ça, elles ont prolongé pendant plusieurs jours. Et voilà, elles se sont dit, ça serait bien qu'on vive toujours comme ça. Alors la responsable, Mère François de Paul, a dit, non, vous ne pouvez pas dire ça toujours. Il faut en parler au Père Sestac, au bon père, comme on disait. Alors, elles vont dire au bon père tout ce qui s'était passé dans leur fort intérieur et leur désir intense de vivre comme ça, parce que pour elles, c'était vraiment une plénitude de vie qu'elles n'avaient jamais connue. Alors, le Père Sestac dit oui, c'est très beau, c'est très bien, mais lui, ça lui faisait un peu peur de les engager. Alors, il dit oui. Alors, vous vivrez comme ça la semaine, mais le dimanche, entre les offices, vous parlerez. Mais voilà. Ça ne les satisfaisait pas. Se montrer que quand même la grâce allait travailler de l'intérieur. Elles sont reparties voir le Père Sestac et il dit, bon, c'est bien mon père, mais le dimanche on est moins contente que les autres jours. Et ça, sûrement, ça a dû faire un tilt dans la tête du Père Sestac. Voilà. Et donc, à partir de là, elles ont pris cette manière de vivre dans le silence, voilà, la solitude, et dans une vie intense d'union à deux, Dieu, dans le travail. À l'époque, il y avait surtout du travail de la terre, dans les sables. Et donc, ce petit groupe, il leur a donné, bon, qui a persévéré, envers et contre tout. Les premiers temps, elles avaient des petites cabanes éparses.
Un peu comme la trappe, enfin. C'est
voilà. Bien, oui. Ah oui, okay. C'est un peu comme la trappe.
Ah, oui.
C'est un peu comme la trappe, oui. Et après, donc, il leur a construit des cellules de paille, parce qu'elles n'avaient pas autre chose. Hein. Donc, il a constitué un peu le groupe en cellules de paille, avec une petite chapelle de paille, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Hein. Et ce petit groupe a fait sa première consécration religieuse en 51. Vous voyez, c'est quand même, bon, il les a quand même un petit peu...
éprouvés un petit peu.
Oui,
s'assurer
oui,
quand même.
C'est ça. Non, c'était un peu normal. Il fallait s'assurer qu'elles aient la capacité de supporter. Alors, les premières Bernardines sont des jeunes qui avaient été accueillis ici, comme pénitente, comme ces jeunes qui souhaitaient changer de vie et qui vivaient avec les sœurs.
C'est vraiment un retournement là.
Un retournement fort, hein, et qui voulaient vraiment une vie totalement renversée par rapport à ce qu'elles avaient vécu. Bon, c'est sûr que c'est vraiment une vie, comment dirais-je, non seulement donnée, mais un peu vers la pénitence, vers le retournement, la conversion, une conversion intense. Hein. Bon. Après, c'est sûr que la règle de vie est venue un peu encadrer tout ça. Et les Bernardines ont été instituées en décembre 1851.
Et pourquoi Bernardine? Pourquoi ce nom?
Alors, pourquoi ce nom? Parce que le Père Sestac avait une grande dévotion à Saint-Bernard, parce qu'à l'âge de 3 ans, il avait eu une grave maladie et sa maman l'avait amené auprès d'une vierge qui était... dans un monastère de Saint-Bernard, près du Boucau. Il y avait eu dans le temps un monastère cistercien qui avait été liquidé à la Révolution, mais était resté un petit coin de chapelle avec une statue de la Vierge. Et les gens de Bayonne allaient faire leur dévotion, en particulier les marins, quand ils partaient en mer, allaient se recommander à cette Vierge de Saint-Bernard. Et lui, il a toujours gardé souvenir de cette guérison et donc une grande dévotion à Saint-Bernard. Voilà. Donc il avait appelé ces sables où ont germé cette vie des premières Bernardines, il l'avait appelé la solitude de Saint-Bernard. Et donc, de là, à faire les Bernardines.
D'accord. Ouais. C'est un peu le désert. Hein,
c'est c'était le désert. C'était vraiment le désert. On a peine à penser de ce que ça pouvait être à l'époque. Mmh. Parce que bon, on a développé, lui-même aussi a développé. Mmh. Parce qu'après, avec les Bernardines, et aussi sûrement les autres, il a voulu essayer de, comment vais-je dire, d'apprivoiser ce lieu. Il a semé des pins, parce que c'est pour que les pins puissent fixer les dunes.
Le sol.
Et donc, alors lui, nous, on replante, mais on replante le piñada, mais on replante avec des petits pins qu'on achète. Là, il est parti des semences, des petites semences. Et ça a été très long. 15 fois, elles ont dû recommencer, parce qu'elles n'avaient pas de quoi arrêter les dunes. Dès qu'il y avait un grand vent, les dunes ont été fixées. À l'arrière, les vents ne passent plus. Donc, on peut cultiver. Et il a fait cultiver Saint-Bernard au fur et à mesure. Bon, il a donné d'heureux résultats.
Et puis, au fil du temps, sous l'impulsion et grâce au travail des Bernardines et des servantes de Marie, Notre-Dame du Refuge deviendra même un lieu d'expérimentation ancré dans la vie locale. Homme de relations, soucieux de partager ses découvertes avec les agriculteurs locaux, la communauté participera même activement aux instances agricoles. Dans le même temps, avec l'aide des servantes de Marie, le père Sestac ouvre des écoles rurales pour filles et veille à ce que l'éducation soit fondée sur le respect de la personne et de sa liberté. Entré dans la lumière de Dieu le 27 mars 1868, le bon père, qui repose depuis lors au cœur de Notre-Dame du Refuge, a été béatifié le 31 mai 2015. La semaine prochaine, nous verrons comment tous ces défis auxquels il a essayé de répondre sont aussi ceux de notre monde. Nous verrons comment cet élan initié il y a près de 200 ans se poursuit aujourd'hui à travers l'émission Père Sestac.